J'ai chez eux. Peine perdue. Les balles filent plus vite qu'une mère qui court en serrant son enfant dans ses bras. Grisés par la joie extatique des massacres, plusieurs habitants de République dominicaine viennent prêter main forte aux soldats. Lorsqu'un homme est perdu de terreur face au canon d'un fusil prétend ne pas être haïtien, on lui pose une simple question. Comment dit-on persil en espagnol ? Si la langue du pauvre air mis en joue peut articuler sans bafouiller péril, en enchaînant sans peine le R roulé et la rota, c'est qu'il est vraiment hispanophone. Les Haïtiens, qui parlent un créole dérivé du français, sont incapables de prononcer ce mot. À l'aube, l'odeur du sang et de la chair qui commence à faisander couvre complètement l'odeur végétale sucrée de la canne à sucre. Environ 18 000 personnes sont mortes, peut-être davantage. Beaucoup de cadavres ont été jetés dans la rivière qui sépare les deux pays. Seuls les travailleurs protégés dans leurs usines par leurs employeurs ont été épargnés. Presque toutes les victimes sont haïtiennes. Certains ressortissants de République dominicaine, à la peau trop foncée, ont fait les frais de cette nuit de massacre. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, qu'après un tel bain de sang, le président Trujillo n'acceptera plus aucune immigration haïtienne chez lui et fera garder sa frontière. Il n'en est rien. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la République dominicaine a besoin de main-d'œuvre pour ses champs de canne à sucre au point de rafler des Haïtiens pour les faire venir de force dans les batets. C'est au sein de cette immigration traitée comme des esclaves que naît Sonia Pierre. Elle n'est pas aussi docile que les autres Haïtiens. Elle n'a pas encore tout à fait quitté l'enfance quand elle décide de protéger les siens contre la violence des Dominicains. À la fin de l'année 1492, Christophe Colomb tombe à genoux sur le sol sablonneux du Nil. Il croit être aux portes de l'Orient après avoir traversé la mer des ténèbres, c'est-à-dire l'Atlantique. Ce nouveau territoire dépendra dorénavant de la couronne espagnole et prendra le nom d'Hispaniola. En quelques années, l'île devient une colonie prospère. Comme beaucoup de Taïnos sont morts des suites des maladies occidentales ou de mauvais traitements, on fait rapidement venir des esclaves d'Afrique noire. En moins de 20 ans, la canne à sucre est au centre de l'économie de l'île. Au XVIIe siècle, les Français s'installent à l'ouest d'Hispaniola, dans la partie qui deviendra plus tard Haïti. Les Caraïbes sont alors en proie à une crise politique perpétuelle, fruit des convoitises des puissances coloniales européennes. Dès le début de la Révolution française, la question de la libération des esclaves se pose. Les propriétaires terriens y sont favorables, mais les représentants de l'autorité française réclament l'abolition. C'est dans ce contexte que le commandant Toussaint Louverture mène une révolte dans toute l'île. Mais en arrivant au pouvoir, Napoléon, poussé par la nécessité financière et les prières des planteurs, souhaite rétablir l'esclavage. Après un nouvel épisode de violence, la République indépendante de Haïti est fondée en 1804. Après bien des remous, l'autre partie de l'île demeure une colonie espagnole. Mais Haïti et sa voisine dominicaine ne sont jamais en paix. Après une période d'indépendance assez courte, la future République dominicaine devient un protectorat américain. L'oncle Sam fait désormais fructifier à son bénéfice l'industrie de la canne à sucre. L'île, autrefois si prospère grâce aux colons de l'Ancien Régime, est devenue pauvre en rêvant d'indépendance. Les Américains encouragent maintenant la venue des Haïtiens en République dominicaine pour servir de main-d'œuvre bon marché dans les champs et dans les usines. On appelle ce mouvement de travailleurs presque réduits en esclavage la traite verte. Le système est assez souple puisqu'il permet de faire refluer les travailleurs vers Haïti quand ils sont inutiles, mais de les faire revenir quand il en manque. Alors que les États-Unis gèrent le pays, Rafael Trujillo, l'homme le plus ambitieux et le plus retors de République dominicaine, se rapproche du pouvoir. Quand les États-Unis se retirent enfin, il s'impose comme dictateur, mais un dictateur qui a un sens de l'économie. Bon, il est vrai qu'il a en partie assaini les finances de son pays. La canne à sucre continue à tenir un rôle central dans son industrie, mais les populations haïtiennes très pauvres, politiquement incontrôlables et créant une sorte de micro-État dans l'État, deviennent gênantes pour lui. C'est pour ça qu'il ordonne le massacre du persil en 1937. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il commence à faire revenir, de gré ou de force, des travailleurs haïtiens dans ses champs. En 1950, ils sont 20 000. En 1960, ils sont 60 000. Leurs conditions de vie sont misérables. Ils n'ont aucun droit. En 1961, le dictateur Trujillo est assassiné dans une embuscade, canardé dans sa propre voiture. La démocratie fait son timide retour. Mais dans les batailles, les campements des travailleurs qui ressemblent à des bidonvilles, elle n'est qu'une idée vague, sans lien avec le quotidien. C'est dans l'un de ces batailles, celui de l'Etcheria, que Sonia Pierre voit le jour en 1963. Enfin, plus exactement à la maternité de Villa Altagracia. Son nom, celui que ses parents lui donnent, c'est Solène. Comme elle l'explique elle-même dans une interview de 2007 à la revue d'Amérique latine Alaï, les officiers d'état civil ne donnent pas de papier d'identité aux Haïtiens. Ils les enregistrent avec toute la mauvaise volonté du monde sur leur carnet du Conseil d'État du sucre, celui donné à tous les ouvriers agricoles étrangers. Pour ces fonctionnaires, tous les originaires d'Haïti s'appellent Pied, un diminutif de Pierre. D'ailleurs, c'est l'institutrice de notre héroïne qui l'appelle Sonia parce qu'elle n'arrive pas à prononcer Solène. Plus tard, quand Sonia parviendra à se faire délivrer une carte d'identité dominicaine, elle découvrira que le fonctionnaire a encore changé son nom. Cette fois, elle s'appelle Solange. La mère de Sonia, Maria del Carmen Pierre, est arrivée en République dominicaine en 1951 à l'âge de 24 ans. Elle venait du fin fond d'Haïti où elle avait laissé ses deux enfants. Elle est entrée en République dominicaine en se faisant passer pour la compagne du futur père de Sonia. En réalité, elle venait rejoindre son mari déjà présent dans le pays de manière illégale. Le père de Sonia, Andrés Confident, venait d'un village haïtien nommé Maringo. Il est mort quand Sonia avait un an, apparemment emporté par une fièvre. La mère de Sonia se retrouve seule avec 12 enfants qu'elle ne sait pas comment nourrir. C'est la promesse de la misère. L'horizon du bataille ne dépasse pas celui du champ de canne à sucre le plus proche. Dès qu'elle tient debout sur ses courtes jambes de petite fille, Sonia fait ce qu'elle peut pour aider sa mère. Et pourtant, de son propre aveu, elle la fatigue parce qu'elle est la Maria Machito de la famille. On pourrait traduire cette expression par garçon manqué, mais ce ne serait pas vraiment exact. En réalité, Sonia prend un rôle de garçon. C'est elle qui joue la protectrice de sa famille en refusant d'être une petite travailleuse bien sage à la maison. Très vite, Sonia se rend compte que les Haïtiens, pauvres travailleurs bon marché, sont traités comme du bétail. Les injustices la révulsent. Alors à 13 ans, en 1976, elle participe à sa première grève pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de vie. Ce n'est pas rien pour une petite adolescente frêle à la peau si foncée de se tenir devant les services de sécurité des grands propriétaires terriens, des descendants d'Espagnols souvent aussi racistes que leurs aïeux du 19e siècle. Mais elle participe aux négociations comme interprète entre les Haïtiens qui parlent majoritairement le créole et les propriétaires hispanophones. C'est même elle qui pousse les grévistes à aller dans les batailles voisins pour faire grossir la grève et lui donner plus de poids. Cette audace lui vaut un séjour en prison. Quand la mère de Sonia vient la chercher au poste, elle promet au policier de lui mettre une bonne raclée. Mais sur le chemin de la maison, elle la félicite. Sonia sait maintenant qu'elle veut défendre les Haïtiens. C'est une vocation. Sa première grève est une victoire. La presse se mobilise et, in fine, les travailleurs haïtiens obtiennent plus de droits. En 1981, Sonia fonde le Mouvement des femmes dominico-haïtiennes, le MUDA. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale, une ONG donc, qui a pour but de faire connaître en République dominicaine et partout dans le monde le sort réservé aux immigrés haïtiens. Elle est loin d'être la seule dans cette aventure. L'une des autres fondatrices du MUDA est Léona Soreil, l'épouse d'un député qui a milité dans des associations féministes en France. D'ailleurs, cette organisation se veut féministe, avec pour objectif premier de mettre en lumière les immigrées haïtiennes à une époque où on ne parle que des braceros, les ouvriers d'origine haïtienne. Après avoir créé cette ONG, Sonia quitte le bataille de l'Etcheria pour Cuba grâce à une bourse. Elle y fait des études de travailleuse sociale. En 4 ans, elle ne parvient pas à finir sa licence. C'est l'époque où Fidel Castro est au pouvoir, la révolution est devenue permanente et le communisme gangrène le pays qui sombre dans la pauvreté. À la même époque, le président Mérilla améliore les conditions de vie dans les batailles en remplaçant les bidonvilles par des maisonnettes. La situation sanitaire s'améliore immédiatement. Sonia trace sa voie dans le militantisme. Ça lui vaut de nombreux ennemis allant jusqu'aux menaces de mort, mais rien ne l'empêche de travailler pour les droits de l'homme. Dans les années 2000, elle milite pour que les travailleurs haïtiens ne soient pas des citoyens de seconde zone en République dominicaine. En effet, les enfants de la première génération d'immigrés peuvent alors être considérés comme des apatrides, ni dominicains, ni haïtiens. Sonia Pierre se dit elle-même profondément dominicaine, même si les Dominicains répugnent à la voir comme telle. Mais lorsqu'elle va en Haïti, on lui reproche de baragouiner le créole et de ne pas être une vraie haïtienne. Ni d'ici, ni d'ailleurs. Voilà un problème auquel ne se heurtera jamais l'élite cosmopolite. C'est un problème de migrants pauvres qui, en réalité, est loin de se poser uniquement en République dominicaine. Sonia Pierre poursuit son action à partir de 2005 aux États-Unis, où elle travaille comme une avocate à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Elle se bat notamment pour la reconnaissance de l'état civil des Haïtiens en République dominicaine grâce au droit du sol. L'année suivante, elle reçoit un prix à la Fondation Kennedy. Peu de temps après, l'un des bienfaiteurs proches de cette fondation lui offre les soins dont elle a besoin dans un hôpital américain. Sonia Pierre a un cœur fragile et on lui pose un pacemaker alors qu'elle a à peine plus de 40 ans. C'est là que ses ennemis au gouvernement tentent d'obtenir sa déchéance de nationalité pour son nom mal orthographié sur le document qui lui sert d'acte de naissance, puis sur ses premiers documents d'identité. La rendre apatride est une manière de lui faire payer ses combats. Mais Sonia ne cède à aucune pression et continue à se battre. Aux États-Unis, elle reçoit même le soutien d'Hillary Clinton et de Michelle Obama. Les années de lutte et sa détermination sans faille n'ont jamais nimbé son regard de haine. Sur les photos d'elle qu'on trouve en ligne, il conserve toujours sa douceur. C'est finalement son cœur plus que sa patrie qui l'a trahi. Elle meurt d'un arrêt cardiaque à seulement 48 ans en 2011.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
De 15h à 16h, Virginie Giraud.
Vous écoutez toujours Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, après la triste histoire du véritable radeau de la Méduse, je vous ai parlé de la République dominicaine à travers le portrait de Sonia Pierre, qui s'est battue pour les droits des Haïtiens. J'accueille maintenant Catherine Bardon, spécialiste de la République dominicaine, pour découvrir un peu plus l'histoire de ce pays. Bonjour Catherine Bardon.
Bonjour.
Alors pour commencer, Catherine Bardon, tous vos livres parlent de la République dominicaine. D'où vous vient cette passion pour cette île ?
C'est une rencontre ordinaire, une histoire ordinaire finalement, un coup de cœur pour un pays, pour une terre, pour un peuple, et qui s'est confirmé au fil des ans. Et effectivement, depuis une trentaine d'années, j'y passe beaucoup de temps.
Votre premier livre, Les Déracinés, parle donc d'un épisode historique assez peu connu de la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment où le dictateur Rafael Trujillo signe des accords avec les autorités américaines pour accorder 100 000 visas à des Juifs qui fuient l'Europe en guerre. Bon, on sait historiquement qu'en fait il n'en a pas reçu 100 000, mais quand même, ça a permis de sauver des vies. Pourquoi un dictateur des Caraïbes accorde-t-il l'asile à des Juifs européens ?
Pour tout un tas de mauvaises raisons. Pour se refaire une image acceptable auprès des Américains, parce que le pays est dans la sphère d'influence des États-Unis, et que Trujillo vient d'assassiner, de commettre génocide, en fait, en assassinant une vingtaine de milliers, peut-être une trentaine de milliers d'Haïtiens à la frontière avec Haïti.
C'est le massacre du Persil, sur lequel on reviendra.
Oui, pour des raisons financières, puisqu'il a fait payer chacun des visas et qu'il a vendu la terre qu'il a offerte, entre guillemets, à ces migrants juifs, pour développer économiquement son pays aussi, en faisant venir dans le pays des gens formés, des gens éduqués, et pour un projet financé par les Américains. Donc en fait, pour lui, il était gagnant sur tous les tableaux.
Donc on ne peut pas penser une seule seconde que Rafael Trujillo pourrait être un juste parmi les nations.
Non, absolument pas. Non, toutes ses motivations étaient des motivations politiques, personnelles, financières et probablement jamais humanitaires.
Pour travailler sur ce sujet, les déracinés, est-ce que vous avez eu accès à des archives déclassées, à des documents que personne n'avait consultés avant vous ?
Je ne sais pas si quelqu'un les avait consultés avant moi. Ils étaient accessibles, en tout cas. Oui, j'ai travaillé avec les archives du Joint, donc l'organisme de tutelle du projet d'Orsa, le projet qui donc a fait venir ces émigrants, et a développé la communauté le kibbutz de Sossois. Donc les archives de la Dorsa, mais également les archives de cette communauté sous forme d'un musée virtuel avec beaucoup de documentation photographique, la mémoire aussi des quelques pionniers prisonniers que j'ai rencontrés, qui étaient encore en vie il y a une trentaine d'années. Et puis également les archives dominicaines et les archives des journaux dominicains. Donc c'est un travail de recherche, documentation assez classique finalement. Donc j'ai eu accès très facilement finalement à toutes ces archives. Il suffisait de se faire ouvrir les portes pour y accéder.
Ce qui n'était peut-être pas si simple que ça.
En réalité, non. En réalité, ça n'a pas été très compliqué. Non. Simplement, il fallait pousser les bonnes portes et une porte en ouvrant une autre. Bon, c'est vrai que ça a été un long travail de recherche, mais ça n'a pas été si compliqué que ça. Je dirais plutôt long et fastidieux.
Donc c'est un marathon. Mais alors, venons-en justement à ce travail de romancière historique que vous faites. Dans quelle mesure vous vous autorisez à laisser une place à votre imagination ?
Dans toute la mesure du possible, j'ai retenu une phrase de mon éditrice qui m'a dit un jour, le romancier a tous les droits. Donc, effectivement, le droit de remplir des blancs, le droit de créer des personnages fictifs pour porter l'histoire, pour être un contrepoids, par exemple, à des personnages ayant existé, le droit de se mettre dans leur peau, d'imaginer leurs sentiments, leurs pensées. Et puis, c'est assez vertigineux, finalement, de s'autoriser ça. Donc, ça laisse l'imagination travailler et c'est formidable.
Vous avez le droit davantage de sentiments que nous, c'est pour ça que je vous envie. D'ailleurs, l'un de vos livres porte sur la fille de l'ogre, Flore de Oro Trujillo, la fille du dictateur Rafael Trujillo. Nous avons nous-mêmes au cœur de l'histoire, en partenariat avec vous, fait un double récit à son sujet, que j'ai trouvé absolument passionnant parce que ça ouvrait les portes aussi sur Rafael Trujillo et surtout son entourage. Pourquoi vous, en tant que romancière, vous avez choisi Flore de Oro et pas l'une des concubines de Rafael Trujillo ou Trujillo lui-même ?
Ce qui m'a intéressé dans ce personnage, c'est sa... Ce que j'ai voulu étudier, en fait, comprendre, c'est la relation d'un enfant à son père, à un père monstrueux. Comment on peut se construire quand on est une petite fille, une jeune fille, une femme, et qu'on a un père monstrueux. Et ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre ce gouffre dans lequel est tombée cette femme, c'est-à-dire aimer son père, être en quête permanente de son amour, et détester l'homme qu'il est. Comment est-ce qu'on peut se construire comme ça? Et donc, au travers du portrait de Flore et de la construction ou de la déconstruction de sa vie, c'est aussi une façon d'aborder la dictature, pas d'un point de vue politique, pas d'un point de vue historique, mais d'un point de vue plus intime, en se penchant sur les relations de ce dictateur avec les membres de sa famille, et notamment cette petite fille qui m'a émue dès que j'ai fait sa rencontre.
Dans votre dernier ouvrage, Une femme debout, vous abordez le destin de l'avocate Sonia Pierre, qui est elle-même d'origine haïtienne et qui s'est battue pour les droits des Haïtiens en République dominicaine. Comment avez-vous fait la connaissance de ce personnage ?
Alors, j'ai rencontré Sonia Pierre de façon complètement virtuelle, je dirais, puisque je ne l'ai jamais rencontrée physiquement, malgré...
Elle est morte au début des années 2000.
Oui, c'est ça. Malgré les multiples tentatives que j'ai faites pour la rencontrer, je n'ai jamais réussi à la rencontrer. Et après avoir écrit le roman, j'ai compris pourquoi je ne l'avais jamais rencontrée. C'est une femme extrêmement occupée qui voyageait aux quatre coins du monde pour se faire la voix des Haïtiens en République dominicaine et de son combat contre l'apatridie. Et donc, je l'avais rencontrée lors de la rédaction d'un livre qui s'appelle Termétis, qui raconte la République dominicaine et où je faisais un certain nombre de portraits. Et au fil des rencontres, on m'a suggéré le portrait de cette femme que je n'ai jamais rencontrée, que je n'ai rencontrée que plus tard au travers de mes recherches documentaires.
Écrire un roman sur un personnage, c'est passer du temps avec ce personnage, c'est rentrer un petit peu dans sa peau. Qu'est-ce qu'elle représente maintenant pour vous, Sonia Pierre, après l'écriture d'un roman ?
Alors effectivement, c'est se sentir de plus en plus proche, en empathie, en amitié, voire en amour avec le personnage, qu'il soit fictif ou qu'il soit vivant ou qu'il ait été vivant. En l'occurrence, c'est une femme de chair et donc... Effectivement, le lien qui se crée, il est très personnel et très intime, puisque j'ai fouillé dans sa vie, j'ai fouillé dans son itinéraire, j'ai essayé de comprendre les mécanismes qui l'ont amené à ce combat et qui l'ont porté. Et donc, il se crée effectivement une intimité qui fait que on endosse presque, enfin en tout cas, moi j'endosse presque les pensées, l'intimité, la vie du personnage.
Écrire sur Sonia Pierre, c'est aussi écrire sur la condition des Haïtiens qui se trouvent en République dominicaine. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer la condition des Haïtiens dans ce pays ? Il faut rappeler que Haïti, c'est le pays voisin qui est un peu plus pauvre que la République dominicaine.
qui est beaucoup plus pauvre que la République dominicaine. La République dominicaine, on la surnomme la Suisse des Caraïbes, et Haïti est l'un des pays les plus pauvres au monde, est un pays aussi sans État depuis pas mal d'années finalement. Donc c'est une situation complexe puisque les deux pays cohabitent sur une île, que la frontière est poreuse, que évidemment l'attrait de la République dominicaine pour les Haïtiens est extrêmement fort, et donc que l'immigration n'est pas du tout contrôlée, et donc ils sont rentrés en République dominicaine de façon illégale pour trouver du travail. Peu régularisent leur situation, donc leur condition, c'est la condition de migrants sans papier, une condition complexe, difficile. Bien souvent, on assiste à des rafles et des bus sont remplis d'Haïtiens qui sont raccompagnés à la frontière et qui vont repasser la frontière dès qu'ils le pourront pour effectivement trouver du travail et pouvoir procurer un peu d'aisance à leur famille. Donc c'est une situation complexe, une situation politique, économique, sociale extrêmement complexe.
Pour comprendre d'où tout cela vient, il faut revenir un petit peu à l'origine d'Hispaniola. Hispaniola, c'est l'île découverte par Christophe Colomb, dans laquelle il va y avoir plus tard Haïti d'un côté et la République dominicaine de l'autre. Qu'est-ce qui explique que la moitié de l'île va devenir l'un des endroits les plus pauvres du monde, historiquement, et que l'autre moitié, c'est la Suisse des Caraïbes ?
Alors, la scission de l'île, elle est le résultat de l'histoire coloniale et des guerres entre Français et Espagnols. Donc, effectivement, d'un côté, les Français... L'île a été française, d'ailleurs, dans son entièreté pendant un temps. Puis, les Français ont récupéré la partie haïtienne quand les Espagnols avaient la partie dominicaine. Et il y a toujours eu une espèce de rivalité entre les deux pays. Des guerres, d'ailleurs, avec une occupation haïtienne de 22 ans du côté dominicain. Donc, c'est quelque chose qui a fait naître des rivalités, des haines, etc. Donc, alors, qu'est-ce qui explique que Haïti soit si pauvre ? Très tôt, finalement, et on peut en remercier Trujillo, ce serait peut-être un de ses seuls bons points sur sa gouvernance, c'est qu'il a interdit l'abattage des arbres. Et donc, Trujillo et son successeur, d'ailleurs Balaguer, ont fait en sorte que le pays ne soit pas déboisé. Donc, c'est quelque chose qui paraît évident aujourd'hui. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et donc, l'interdiction de couper des arbres, eh ben, la guerre a fourni à chaque foyer dominicain un système pour cuisiner au gaz avec des bonbonnes de gaz. Et donc, dès le début du XXe siècle, finalement, la République dominicaine a gardé sa couverture de forêt. Alors que de l'autre côté, les Haïtiens cuisinaient au charbon de bois, donc coupaient, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un arbre en Haïti, et que donc les pluies ravinent les sols, que la terre ne retienne pas, enfin que la terre ne soit pas retenue, qu'on a des coulées de boue à la moindre tempête tropicale, on a des catastrophes naturelles qui sont amplifiées par ce phénomène. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont dans une misère noire parce qu'ils n'ont même plus de quoi cuisiner, c'est-à-dire qu'ils achètent du charbon de bois en République dominicaine.
Encore aujourd'hui ?
Ah oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, c'est très clair, quand on survole le pays, on voit la frontière. En avion, on voit la frontière. D'un côté, c'est marron, de l'autre côté, c'est vert. Donc, c'est un combat écologique, finalement, avant l'heure, mais qui a porté ses fruits, puisqu'en République dominicaine, on a de belles forêts qui sont protégées et qui ont permis au pays de mieux résister à toutes les tempêtes et catastrophes météorologiques, les cyclones, les tempêtes tropicales. Voilà.
Donc, votre héroïne bien réelle, Sonia Pierre, naît en 1963, 2 ans après la mort de Trujillo, qui laisse donc le pays dans un état économiquement à peu près stable, ce qui n'est pas si mal pour un dictateur. Mais par contre, vous racontez l'histoire de Sonia Pierre. En revanche, vous ne voulez pas rentrer dans sa vie intime, dans votre roman. Pourquoi ne pas avoir choisi d'éclairer ce qui la rend la plus humaine, finalement, son intimité ?
Ah ben, je crois que son combat la rend très humaine. C'est une femme qui se bat pour sa communauté, qui se bat avec tout son cœur, et je pense qu'elle est très humaine. Le fait de ne pas rentrer dans sa vie intime, c'est-à-dire de ne pas raconter finalement sa vie familiale, son mari, ses enfants, c'est un choix délibéré, d'une part parce que c'est une femme qui toute sa vie a été extrêmement discrète. J'ai eu quand même beaucoup de difficultés à trouver des informations sur elle, à part quelques interviews en radio, radiophoniques, sur des ondes haïtiennes par exemple. Donc, Donc c'est une femme qui est restée toute sa vie extrêmement discrète. Elle a son mari, ses enfants sont toujours en vie, ses petits-enfants. Donc je voulais pas rentrer dans une histoire familiale. Mon propos, c'était vraiment de raconter la militante, son combat, et finalement, pour raconter son intimité, je suis passée par un autre personnage, un personnage que j'ai inventé, qui est son amie d'enfance, Kerline, qui va être une espèce de miroir tendu à Sonia pour lui montrer effectivement ce à quoi elle a échappé, et pour qu'elle puisse mesurer effectivement tout le chemin parcouru et ce qu'elle est devenue. Donc c'est Kerline qui va être le personnage fictif et qui va permettre de raconter l'intimité de Sonia et de la romancer. Quant à Sonia, j'ai vraiment voulu la laisser dans son rôle de militante et dans sa vie et son combat de militante.
Quelle est la situation des Haïtiens aujourd'hui en République dominicaine ? Ils sont reconnus comme des citoyens pleins et entiers ou ce sont encore des citoyens de seconde zone ?
Tous les cas de figure existent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en situation parfaitement légale, des entrepreneurs qui travaillent, qui vivent en République dominicaine. Il y a des travailleurs pauvres, on va dire, qui sont principalement employés dans les métiers de l'agriculture et du bâtiment. Et dans ces travailleurs pauvres, beaucoup sont sans papier ou entrés dans le pays de façon illégale, donc susceptibles d'être renvoyés de l'autre côté de la frontière à n'importe quel moment.
Aujourd'hui, quelle est la situation de la République dominicaine ? Est-ce que c'est toujours une forme de dictature ou est-ce que c'est une démocratie ?
Non, il y a bien longtemps que la dictature est oubliée. C'est vraiment une période de mauvaise mémoire. Donc, c'est un pays qui fonctionne avec une démocratie à l'américaine. Et d'ailleurs, les prochaines élections présidentielles auront lieu en mai. Donc, c'est une démocratie qui fonctionne plutôt bien. Et un pays qui a vraiment pris la modernité à bras-le-corps. C'est-à-dire que depuis, on va dire, une dizaine d'années, le pays s'est extrêmement bien développé au niveau des infrastructures, des routes, des équipements de santé, etc. Donc c'est un pays qui fonctionne plutôt bien.
Je rappelle que votre dernier livre, Une femme debout, raconte l'histoire exceptionnelle de la militante des droits humains Sonia Pierre et qu'on retrouve ce livre aux éditions Les Escales. Au cœur de l'histoire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès demain pour une émission consacrée à l'Espagne, à Franco, à la guerre civile et à un personnage complètement fou qui a œuvré dans les prisons républicaines, Alphonse Lorenzi, qui a torturé des prisonniers avec de l'art moderne. Vous allez découvrir une histoire qu'aucun scénariste d'Hollywood n'aurait osé imaginer. Mais d'ici là, souvenez-vous qu'au cœur de l'histoire sort d'abord en podcast avant d'arriver sur les ondes d'Europe 1. C'est gratuit et c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous vous connectez tout de suite, vous pourrez écouter le grand récit que je consacre à Joséphine Baker, la plus patriote de nos artistes de music hall. Bon après-midi et bon week-end sur Europe 1.
Vous vous souvenez ce qui s'est passé le 15 avril 2019, journée historique? Et oui, c'est ce jour-là que Notre-Dame brûlait, un incendie ravageait la cathédrale, symbole de la chrétienté inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je le rappelle quand même, la France entière et le monde assistaient impuissants au drame. Eh bien, 5 ans après, Europe 1 se souvient. Et ce lundi, notez-le, journée spéciale consacrée à Notre-Dame de Paris. Comment le traumatisme a-t-il été surmonté ? Pourquoi tant de Français de toute confession ont-ils donné pour permettre la reconstruction en un temps record?
Moi, j'ai reçu un appel de la maire de Paris qui faisait état d'un début d'incendie, mais quelques minutes avant 18h47, aucune personne n'avait encore appelé les secours pour un incendie à Notre-Dame.
Notre-Dame de Paris, 5 ans après, journée spéciale, lundi 15 avril, c'est ce lundi, sur Europe 1, soyez au rendez-vous. Un peu de musique à présent, avec un hommage à Claude Nougaro à l'occasion des 20 ans de sa disparition. Extrait de l'album Une voix, 6 cordes, premier album d'Ivan Cugius et du guitariste Louis Winsberg, avec des invités comme Francis Cabrel. Voici leur version de Cécile, ma fille, avant de retrouver Olivier Delacroix dans la libre antenne d'Europe 1.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile. Avec ses arguments de te faire un papa, Cécile, ma fille.
Quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, Elle me dit alors, jubile, ce sera un garçon. Et te voilà, Cécile, ma fille.
Et te voilà, et me voici moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est nés à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux?
Bien avant que je t'aie des filles, j'en avais eu. Jouant mon cœur à face au pile. De la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile, ma fille.
Et je sais que bientôt, toi aussi, tu auras des idées et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains. Cécile, ma fille.
Moi je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais.
Que toujours on te touche comme moi maintenant,
comme mon souffle sur tes cils,
mon baiser sur ta bouche dans ton sommeil d'enfant.
Cécile, ma fille.
Cécile, ma fille, extrait de l'album Une voix six cordes d'Yvian Cugius et du guitariste Louis Winsberg avec en invité Francis Cabrel. Album hommage à Claude Nougaro, Yvian Cugius qui fait partie de la bande de copains de Sophie Davant d'ailleurs, mais oui, et on retrouvera Sophie et les copains un petit peu plus tard dans la nuit sur Europe 1. Et ce sera l'émission de vendredi si vous l'avez manqué. Voilà, mais avant de jouer avec Sophie Davant, ambiance confidence au micro d'Olivier Delacroix, c'est l'heure de la libre antenne, l'heure de se remémorer quelques témoignages.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Bonsoir Axel.
Bonsoir Olivier.
Quel âge avez-vous Axel?
Alors 34 ans, tout juste depuis une semaine.
D'où m'appelez-vous Axel?
À côté de Lille, dans le Nord.
De quoi allez-vous me parler, mon cher Axel?
Alors, je vous parlais de résilience, de motivation, d'handicap.
Oui.
Et de mon parcours qui est un peu hors norme, je dirais, à la fois de sport aussi.
Oui.
Donc beaucoup de choses, malgré mon jeune âge, je dirais.
Malgré votre jeune âge, d'accord.
Plusieurs vies.
Plusieurs vies, c'est de ça en fait. Je trouve que c'est ce qui vous décrit le mieux. Plusieurs vies.
Exactement, j'aime bien me décrire comme l'homme aux plusieurs vies.
Oui, ouais, ouais, vous avez raison. Parce que bien évidemment, moi, je vous connais un peu pour avoir lu votre fiche. Hein. Je sais de quoi nous allons parler, mais ce qui vous caractérise d'abord, ce sont ces vies, plusieurs vies. Et puis, je dirais que vous avez parlé de résilience, mais aussi de courage. Je crois que ce mot courage incarne vraiment votre personnalité. Vous êtes d'accord avec ça?
Bah, je dirais que c'est du courage, effectivement. Après, il y a beaucoup de... Au-delà du courage, c'est du mental aussi. Parce que c'est vrai que c'est un parcours qui a pas été facile hein, depuis le début. Alors, on peut commencer directement pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent. C'est vrai que moi, tout a débuté. À la base, je faisais du BMX. J'étais plusieurs fois champion d'Europe et champion du monde de vélo, de BMX.
Oui, oui.
Tout se déroulait bien. J'ai ensuite troqué mon vélo pour une moto, réalisé mon rêve qui était de devenir pilote professionnel. Je roulais dans l'équipe KTM qui était basée en Autriche. Et malheureusement, tout a basculé sur cette fameuse date, le 27 juin 2010,
oui.
Où sur le Grand Prix de Lettonie, je chute et je perds l'usage de mes jambes.
Vous chutez comment et vous tapez où exactement, en fait, Axel ?
En réalité, c'est pas une chute qui est très impressionnante parce que j'ai fait des chutes bien plus impressionnantes, bien plus compliquées.
Grave, oui.
Voilà. Mais là, je chute mal. Comme on le dit souvent, je réceptionne mal sur le dos, sur les fesses plutôt, et une onde de choc vient faire briser ma colonne vertébrale. Okay. Je tombe seul. J'ai pas forcément quelqu'un qui me fait chuter ou je suis pas quelqu'un qui me rentre dedans.
Oui.
Je tombe vraiment seul. L'accident se déroule seul. Mais tout de suite, je sens que je suis paraplégique. Donc, pour rappel, paraplégique, ça veut dire perdre l'usage de ses jambes.
D'accord. Vous sentez tout de suite que vous avez perdu l'usage de vos jambes.
Voilà.
De vos jambes.
C'est vraiment instantané. En plus de ça, je tombe pas forcément dans le meilleur des pays à l'époque parce qu'il y a 13 ans, je tombe en Lettonie.
Oui. Oui.
Je n'ai rien de contre la Lettonie, mais il y a 13 ans, les moyens médicaux en Lettonie sont bien loin de ce qu'on peut imaginer chez nous.
Oui.
Et je me retrouve donc pas forcément dans les meilleures conditions pour déjà me rapatrier du terrain à l'hôpital à Riga.
Oui.
Et ensuite, les premiers secours sont complètement catastrophiques.
D'accord. On vous dit tout de suite, là-bas en Lettonie, quelle est la gravité de votre blessure ?
Alors pas forcément, j'ai pas forcément de diagnostic précis là-bas parce que déjà les médecins ne parlent pas anglais.
Oui.
Donc je me retrouve un peu dans le flou. Je sens que je ne sens plus mes jambes. J'ai qu'une hâte, c'est pouvoir rentrer chez moi en France et arriver à Lille à l'hôpital. Là, les médecins, le diagnostic tombe. On me dit que je ne remarcherai probablement jamais.
D'accord. Quand ce diagnostic tombe, Axel, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme, d'un tout jeune homme, à l'annonce qu'il ne remarchera peut-être plus jamais ?
C'est très compliqué. Je dirais que, alors, comme toujours, il y a toujours pire. Mais à 20 ans, je pense que c'est l'une des choses les plus dures qu'on peut dire
à
un gamin de 20 ans. Lui dire que, d'une part, il ne remarchera jamais, d'autre part, que sa carrière est foutue. Il ne pourra plus jamais faire de moto.
Oui.
Mais malgré ce diagnostic pessimiste des médecins, je décide de ne pas me résigner. C'est important.
Alors c'est quoi ne pas se résigner, en fait ?
C'est pas accepter cette fatalité de se dire que c'est définitivement foutu.
Oui. Alors est-ce à dire que vous vous dites « un jour je remarcherai » ou « ça n'est pas définitivement foutu », ce qui ouvre la voie, bien évidemment, à continuer à vivre et à faire plein d'autres choses, en fait.
Plutôt, je me dis à cette époque dans ma tête que malgré tout, je reste un sportif de haut niveau et que je connais quand même très bien mon corps.
Oui.
Et que potentiellement, je peux essayer d'aller chercher des choses que les médecins ne peuvent pas imaginer, par exemple, sans aucune prétention, mais... En étant sportif de niveau, on connaît très bien son corps et on se dit qu'on peut, tant que c'est pas, tant qu'on n'a pas tout fait, tout tenté pour essayer d'y arriver, on se dit que c'est pas terminé. Mmh. Et là, le combat était lancé finalement. Quand on me dit que je n'en marcherai probablement jamais, là, je me dis, ok, avant d'accepter définitivement, je dois me battre. Je me donne une échéance, 2 ans à peu près. Et je ferai le bilan au bout de ces 2 ans. Mais avant ces 2 ans, je ne peux pas y croire et je ne peux pas être fataliste face à cette situation.
D'accord. Vos parents, vos proches sont tout de suite mis au courant de votre blessure, je suppose, de ce qui vous arrive. Comment votre famille réagit-elle à tout ça ? Elle vous entoure instantanément ?
Alors mes parents étaient présents sur ce fameux Grand Prix.
Oui.
Donc mes parents ont pu m'accompagner déjà aux soins intensifs là-bas, ensuite réceptionné en France. Malgré tout, je dirais que ça peut paraître assez surprenant, mais parfois c'est même plus difficile pour l'entourage, parce que l'entourage reste spectateur face à cette situation, impuissant.
Oui, oui, oui.
Ils doivent subir tout ça finalement. Moi, je suis acteur de moi-même. Effectivement, c'est très compliqué, mais eux, mis à part m'encourager, rester positif, c'est quand même quelque chose qui est très difficile pour eux. Donc, j'ai la chance à cette époque d'avoir des gens autour de moi qui restent, qui sont pas dans la négativité, qui restent très positifs à cette situation finalement. Et tout ça permet finalement de relativiser, prendre de la hauteur et de partir au combat. Tous les jours, mes parents venaient me voir. C'était important de les avoir auprès de moi. D'ailleurs, j'ai fait ce choix d'être dans un centre de rééducation qui était à côté de Lille et non pas dans un... Vous savez, il y a ce fameux centre de rééducation de sportifs de niveau que je connais très bien, à Cap-Breton, dans le sud de la France, etc. Oui. Mais là, j'ai préféré vraiment faire le choix de la proximité pour être vraiment avec mes proches, parce que je pense que dans un tel accident, il y a une grande partie importante sur la partie entourage qu'il faut savoir garder. Donc, c'était important pour moi d'être vraiment pas loin de chez moi.
D'accord. Vous savez que je connais l'un de vos amis, en tout cas l'une de vos relations avec qui j'ai tourné tout le week-end.
je sais bien, ouais, c'est marrant parce que quand il a préparé le tournage, il était chez moi à la maison.
D'accord, alors on parle de Martin, hein.
C'est ça.
Je vous laisse dire son nom de famille.
Martin Petit.
Martin Petit, avec qui j'ai passé vraiment 3 jours incroyables, très nourrissants, très impactants, parce que comme vous, ce jeune homme... M'a beaucoup inspiré. Et je ne savais pas que nous allions nous parler ce soir, hein, mon cher Axel. C'est le hasard qui fait les choses. Et je dois dire combien... Alors, je ne sais pas s'il nous écoute sûrement, mais il le sait, je lui ai dit combien son parcours, comme le vôtre, hein, dont j'ai appris aujourd'hui un peu plus, est incroyable de courage, d'abnégation. Je trouve ça formidable parce que, bien évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, lorsqu'à 20 ans, 21 ans pour Martin, on est frappé comme ça de la fatalité, cela nous renvoie, nous, lorsqu'on vous rencontre, à nous-mêmes et à cette question, qu'est-ce que j'aurais fait? Comment aurais-je réagi? Comment ferais-je cette question-là, vous vous l'êtes posée avant ou finalement, à 20 ans, comme on ne pense pas à la mort, comme on ne pense pas aux choses graves, c'était le handicap, vous y avez pensé avant?
C'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens me posent. Alors, je fais beaucoup de conférences. Aujourd'hui, moi, j'interviens beaucoup en entreprise, en France, à l'international, parce que je parle anglais.
Oui.
Et c'est vrai, à la fin de cette interview, ça peut être des très grosses conventions, hein, de 1 000, 2 000 personnes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens à chaque fois qui viennent me voir en disant « Mais moi, comment j'aurais réagi à votre place? Est-ce que vous étiez préparé à cet accident ?» Et j'explique aux gens que, en fait, dans la moto, c'est un sport qui est quand même très risqué. Un sport où on sait qu'il est extrême, finalement.
Oui.
Et j'avais toujours... J'ai eu malheureusement dans mon entourage des personnes très proches qui ont eu des accidents, même bien plus graves que le mien. Et donc, le handicap, on le connaît un petit peu parce que ses amis, on les retrouve en fauteuil roulant.
Oui.
On sait que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, à 20 ans, malgré tout, j'étais un petit peu, pas initié, mais je veux dire sensibilisé à ce qui peut arriver dans notre sport. Donc finalement, je vais pas dire que, enfin voilà, ça m'est arrivé. On se dit pourquoi moi, mais c'est quelque chose que je connaissais un petit peu. Finalement, on sait que on connaissait la gravité, les accidents qu'il peut y avoir. J'ai déjà été dans des centres de rééducation avant déjà ma grosse blessure parce que je m'étais déjà blessé au genou. Et donc, j'avais rencontré des accidentés. Donc voilà, on est quand même un peu touché là-dessus et ça reste le motocross une grande famille.
Oui, bien
on
sûr.
On connaît tous, on se soutient tous, mais quand ça nous arrive, c'est vrai que bon là, c'est encore autre chose. Mais par exemple, on parlait de Martin, lui, c'est encore différent parce que c'était à la plage, un moment où on est normalement détendu.
C'est totalement incroyable, l'accident de Martin. C'est... Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent d'ailleurs, je voudrais tout de même décrire, on a parlé de votre accident, comme vous l'avez dit, quand on fait du motocross, c'est quelque chose auquel on peut être confronté déjà, mais on peut y penser. Martin, en fait... court sur la plage dans les Landes, hein, vers l'océan. Alors c'était un athlète, hein, à 21 ans, il faisait beaucoup de sport, il était très rapide, donc je pense que quand il courait très vite, et il plonge dans l'océan. C'est-à-dire que cet accident qu'il a ne sort de nulle part, c'est la fatalité totale. Il me dit qu'il se réveille dans l'eau, en fait, et qu'il ne peut plus bouger. Il a été d'ailleurs sauvé par un de ses copains qui était à côté de lui, heureusement. Mais on voit de toute façon que dans ces accidents, c'est souvent la fatalité qui nous gâte toutes et tous. Hein. Vous qui nous écoutez, personne n'est à l'abri de tout ça. C'est pour ça que je vous posais cette question, si vous y aviez pensé, mais avec le motocross, vous avez raison, on est obligé d'y penser.
On y est confronté. Donc... voilà, souvent les gens aussi me disent comment on devient résilient, est-ce qu'on est résilient. Alors je leur explique, la résilience s'apprend avec l'expérience, avec la vie, l'éducation. Moi, j'ai choisi ce que je faisais, les risques que j'encourais. J'ai déjà vu des accidentés en rééducation qui s'étaient pris une voiture de pleine face, qui n'avaient rien demandé à personne.
Complètement.
Donc l'acceptation est complètement différente.
Même si le résultat est le même, mais vous avez raison de. Je connais quelqu'un qui a été à l'arrêt dans sa voiture, fauché par un mec qui avait 2 grammes d'alcool dans le sang et qui lui est foncé dedans comme ça. Il était arrêté un stop. Donc il y a parfois. Et ça, en fait, ça compte, en fait, les conditions dans lesquelles on est frappé, vous pensez, dans l'acceptation
Complètement.
Oui.
Je suis certain que oui. C'est beaucoup. Enfin, en tout cas, personnellement, je pense. Hein,
d'accord.
Je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi d'accepter mon accident par rapport à quelqu'un qui s'est fait envoler lors d'une balade à bicyclette. Lui, il n'a rien demandé à personne. Moi, je savais que je prenais des risques au quotidien. Donc, je pense que l'acceptation ne doit être pas du tout la même.
Alors, ce qui n'était pas le cas de Martin Petit. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on va parler de vous, mais j'en profite pour clore sur Martin, que c'est un influenceur vraiment, vous qui nous écoutez, que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur YouTube, mais surtout sur son Instagram où il a déjà plus de 100 000 followers. Et vous pouvez le retrouver donc sur Instagram et je vous conseille d'aller le voir. Ainsi que vous, hein, Axel, parce que vous, tous les deux, vous tirez un peu la bourre, hein, vous êtes potes, mais vous êtes aussi...
On s'est un peu connus comme ça. Alors finalement, Martin m'avait découvert sur... C'est ça notre histoire, il m'a découvert quand il a eu son accident, il m'a découvert sur les réseaux sociaux.
Oui. D'où vraiment le côté génial des réseaux sociaux. Hein, on les critique souvent sur cette antenne, mais c'est génial aujourd'hui, ces réseaux sociaux. Dans le handicap, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de choses.
Bah, pour le coup, ouais, il le dit souvent dans ses interviews que au début, me voir faire des choses, des challenges, rebondir, ça lui a donné envie de partager aussi tout ça. Et il le fait très bien aujourd'hui sur les réseaux au quotidien. Donc on s'entend très bien. Et il est venu juste avant mon dernier grand défi en date, justement à la maison. Donc c'était sympa de l'avoir à mes côtés.
Alors Axel, maintenant, on va parler de vous, d'abord de cette inspiration qui fait que vous avez eu plusieurs vies. On va parler bien évidemment de ces vies, mais avant tout, cette énergie en fait, vous l'aviez déjà avant en tant que sportif de haut niveau ?
Alors je pense qu'en tant que sportif de haut niveau, on a cette faculté de savoir se remettre en question, de savoir s'entraîner, être assidu, une énergie qui a été aussi initiée par mes parents dans l'éducation. Donc je l'avais tout de même un petit peu, mais après, comme je le dis souvent en conférence, quand on est face au mur et qu'on se retrouve sans avoir le choix d'aller rechercher cette énergie au plus profond, ben on va chercher des ressources qu'on n'a jamais utilisées. Mmh. Qu'on soit sportif ou non, finalement, parce que j'ai vu des personnes en rééducation qui n'étaient pas du tout sportives et qui réalisaient des exploits extraordinaires. Donc là-dessus, oui, le sport m'a aidé, mais pas que. En tant qu'être humain, on a tous en nous cet instinct de survie qu'il faut aller réveiller quand on est face à des situations qui sont très difficiles.
La première fois que vous vous retrouvez dans un fauteuil, en fait, quelle impression vous avez ? Au-delà du fait de peut-être pouvoir à nouveau vous déplacer, je crois que la première fois qu'on se retrouve dans un fauteuil, il y a plein de choses qui doivent passer par la tête.
Je vais vous faire rire, mais la première fois que tu te suis retrouvé dans un fauteuil, je n'arrivais même pas à rouler droit dans les couloirs.
D'accord.
Alors l'ironie, c'est que j'étais quand même un pilote 3 fois champion du monde de motocross, pilote professionnel,
oui.
Et je n'arrivais même pas à conduire mon fauteuil roulant.
Incroyable.
Donc ça, c'était quand même assez perturbant. Mais c'est vrai que en fait, il y a plusieurs étapes. Déjà, la première, c'est d'avoir été allongé 3 semaines à l'hôpital. La deuxième, c'était la victoire, c'était déjà me mettre dans un fauteuil. On ne dirait pas comme ça, mais me remettre dans un fauteuil avec les plaques qui me tirent dans le dos.
Bien sûr, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que ne faut pas oublier que c'est une blessure à la colonne vertébrale, donc je suppose qu'il y a un temps d'immobilisation, non ?
Exactement, ouais. Et vous devez le savoir, et les gens doivent s'en rendre compte aussi, quand on est allongé 3 semaines et qu'on se remet pour la première fois juste assis, on a la tête qui tourne, on se sent pas bien, la nausée, tout ça. Donc la première fois que je me suis mis dans un fauteuil, ça a été... déjà compliqué à se remettre au fauteuil. Ça a été une première étape importante. Et je suis parti pour mon premier jour de rééducation. J'étais vraiment excité à l'idée de pouvoir commencer à travailler, parce que moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était travailler, hein, les petites contractions que j'avais. Et donc, j'attendais beaucoup de cette première séance de rééducation.
Oui.
Et je me souviendrai toujours Le premier exercice que m'a demandé ma kiné Gaëlle à l'époque, c'est de me transférer du fauteuil roulant à la table de kiné.
Oui.
Alors, c'est peut-être un exercice anodin pour vous, valide, et très compliqué pour une personne paraplégique qui est privée de ses abdominaux. Et pour la petite histoire, je me transfère sur cette fameuse table, et là, elle me demande de croiser les bras, et je n'arrivais même pas à tenir assis en équilibre, je tombe en arrière. Alors, moi qui voulais remarcher, moi qui, quelques minutes auparavant, rêvais de pouvoir travailler, me remettre debout.
Ça a dû être...
Première étape, je n'arrivais même pas à tenir assis en équilibre sur une table de kiné. Là, je me suis pris vraiment un coup de massue derrière la tête. Ça a été vraiment un choc. Je me suis dit que le parcours allait être vraiment très long.
Mmh. Il a duré combien de temps, ce parcours de rééducation ?
2 ans et demi.
2 ans et demi, d'accord. Ouais, 2 ans et demi, donc ils sont composés. Vous êtes dans un centre de rééducation avec des kinés, avec
du kiné. Exactement, c'est un, comme je le décris souvent, c'est un mini-village, hein, finalement, où il y a des patients, le personnel médical, les infirmières, des ergothérapeutes, des kinés, on a des profs de sport, on a un restaurant, les lits qui sont là. Moi, j'étais enfermé là-bas 6 jours sur 7. Donc, c'était vraiment ma maison pendant 1 an et demi, parce qu'après, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez moi le week-end.
Mm-hmm. On parle de seconde famille, parfois, lorsque on parle des équipes qui vous entourent, vous, lorsqu'on a subi une blessure comme ça. Ça a été votre sentiment d'avoir cette seconde famille qui vous épaulait ?
On crée des liens directement. Hein, on passe du temps, pour ma part. Moi, j'ai créé des liens très forts avec Gaëlle, parce que ma kiné, à l'époque, qui a beaucoup d'espoir sur notre kiné, parce que, évidemment, c'est avec elle qu'on travaille tous les jours au quotidien, on passe beaucoup de temps. Donc ouais, on crée beaucoup de liens, on essaye évidemment de se rassurer entre patients aussi. Donc on crée des amitiés. Quand on se retrouve un petit peu tous à un moment donné dans des galères, quand je fais le bilan de tout ça finalement, parce que j'ai encore des amis hein, avec qui j'ai passé le début de ma rééducation.
Oui.
C'est marrant parce qu'aujourd'hui on en rigole. On a passé finalement des bons moments, même si c'était une période qui était très compliquée. On arrivait tout de même à passer des bons moments. On arrivait à rigoler de notre handicap.
Oui. Je crois de toute façon que votre trajectoire, on va en parler hein, bien évidemment de tout le reste, parce que là on est à la moitié de votre témoignage, celui de Martin aussi, petit. Quand je dis qu'il est très inspirant, c'est qu'on voit que l'homme a des ressources incroyables en fait en lui, parce que cette épreuve, parce que c'est une sacrée épreuve à 20 ans, 21 ans, fait que on a l'impression que plein de choses naissent et que finalement on ignorait qu'on avait autant de force, autant d'énergie en soi.
Oui, notre cerveau, alors les gens utilisent souvent font au quotidien de la préparation, par exemple physique, font du sport, etc. Mais on oublie notre premier muscle qui est le cerveau, et on l'utilise malheureusement pas assez par rapport à le potentiel qu'on peut avoir avec ça. Ce que je dis souvent, j'ai utilisé la technique de la visualisation.
Oui.
Une technique de la visualisation créatrice. Hein. C'est quelque chose qu'on parle peu, mais qui fonctionne vraiment très bien.
Qu'est-ce que c'est, dites-moi.
Alors, c'est la visualisation créatrice, c'est de l'imagerie mentale. Alors, en tant qu'athlète de haut niveau, je l'utilisais beaucoup pour préparer mes compétitions, essayer d'anticiper le circuit, les trajectoires. Mais on peut aussi l'utiliser dans le quotidien pour toutes sortes de choses. Donc, vous imaginez, par exemple, récupérer une partie de vos muscles. Vous imaginez réaliser des objectifs, etc. Et c'est vraiment prouvé, hein, on l'a prouvé. J'ai d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire avec Michel Simès et Adriana Carambu dans Le pouvoir extraordinaire du
corps humain.
Du corps humain, oui,
sur France Télévisions. Oui.
Voilà, on a fait un doc où ensemble on a démontré qu'on pouvait avoir des résultats concrets sur notre corps avec la visualisation. C'est-à-dire comment? Ben, par exemple, vous prenez un patient, vous lui dites de ne pas travailler physiquement son bras, mais juste de visualiser son bras travaillé.
Oui.
Et ben, on a des améliorations musculaires de l'ordre de, je sais plus, je crois que c'est entre 8 et 12%, quelque chose comme ça. Donc, comme quoi, oui, il y a des résultats concrets. Et donc, j'ai mis en place cette technique pendant ma rééducation. Et effectivement, elle m'a énormément aidé. Je ne dis pas que tout le monde peut marcher avec la visualisation, loin de là. Chaque blessure est différente, chaque récupération est différente, mais ça fait partie d'une des choses qui m'a aidé dans tout le processus, en plus de la kiné, en plus des ergothérapeutes, en plus de l'orthoprothésiste qui m'a accompagné. Il faut savoir que moi, j'ai eu 2 ans et demi de rééducation, mais pendant 1 an et demi, j'ai progressé, et après, je ne progressais plus du tout. Et le problème de la colonne vertébrale, c'est que vous n'avez aucune visibilité. En 2010, mais encore en 2024, aucun médecin ne pourra vous prédire l'avenir. Donc, vous êtes constamment dans l'interrogation complète.
Oui.
Personne ne pourra vous dire si vous remarcherez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou peut-être jamais. Et donc, à 20 ans, ce qui est difficile mentalement, c'est de ne pas savoir comment se projeter, de se dire, est-ce que je continue à travailler, me battre contre un mur pour espérer des choses qui ne reviendront jamais, ou à un moment donné, on se dit, bon, est-ce qu'on n'accepte pas le handicap, le fauteuil, ou autre option, potentiellement, au lieu de subir un changement, pourquoi pas créer le changement, innover, m'adapter. Et donc là, j'ai eu l'idée avec un orthoprothésiste de pouvoir développer ce qu'on appelle des attelles en carbone, des releveurs,
oui.
Afin de tenir mes chevilles à 90 degrés.
D'accord, ce qui vous a permis de vous remettre debout ?
Exactement, c'est des attelles qui m'ont permis de pouvoir pallier à ces muscles.
Vous pouvez vous déplacer un peu, Axel, parce que ça ne capte pas très bien là où vous êtes tout limite de réseau.
Ah bon ?
Oui.
Okay.
Un tout petit peu.
Vous m'entendez ?
Ouais, super, super. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que bien évidemment, lorsque on